Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, honorer, louer, servir Dieu. Voici le troisième sermon, servir Dieu. Le servir, c'est collaborer à la réalisation de son œuvre. Or, son œuvre, c'est le salut des hommes par la christianisation de la société, par la chrétienté. Son œuvre à laquelle nous devons collaborer, il nous a demandé de prier à cette intention que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Ce règne n'arrive pas tout seul, il arrive par l'Église qui prolonge la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église est essentiellement missionnaire.
Voilà la mission de notre Seigneur qui se continue et qui doit continuer jusqu'à la fin des temps. C'est cette mission. Ainsi, l'Église est missionnaire. Elle ne peut pas ne pas être missionnaire. Une Église qui ne serait plus missionnaire, qui ne serait plus envoyée, ne correspondrait plus à la très sainte Trinité, ne correspondrait plus à ce qu'est la sainte Trinité, ne correspondrait plus à ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est l'envoyé de Dieu. Vous êtes des apôtres, apôtres, apostolos, envoyés, envoyés. Vous êtes missionnaires essentiellement pour accomplir la mission que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie ici-bas, pour la continuer. Hoc facite in meam commemorationem.
C'était quelques extraits du sermon de Mgr Lefebvre le 29 juin 1978 pour les ordinations sacerdotales à Écône. Premier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la source de cette mission, la fécondité de la croix par la messe. Nous en avons parlé dans le sermon précédent sur la messe, la croix et la messe. Mgr Lefebvre y revenait constamment. La croix a été offerte pour le salut de toute l'humanité, mais c'est par la messe qu'elle profite à l'Église et qu'elle nourrit l'extension de l'Église. Donc, cette mission de l'Église concerne les hommes, certes, elle est accomplie par des hommes aussi. Cependant, elle est divine dans son origine, puisqu'elle vient de Jésus-Christ et de la divinité de Jésus-Christ. Elle est divine dans sa nature, parce qu'il s'agit de donner la vie surnaturelle, la vie de la grâce, avec les vertus surnaturelles données directement par Dieu, les dons du Saint-Esprit, qui montrent à l'évidence que cette vie est divine. Je vous en ai suffisamment parlé dans le sermon sur le Saint-Esprit, âme de l'Église. Elle est divine dans ses moyens, puisque les moyens sont institués par le Christ, je vous les ai donnés dans un sermon précédent. Jésus-Christ avec sa nature humaine, la très sainte Vierge, les sacrements, la prière. Elle est divine dans son but, qui est l'union à la très sainte Trinité, dès ici-bas et éternellement dans le ciel. Enfin, elle est divine aussi dans ses succès et dans ses échecs, comme la croix. Divine dans ses succès, puisque notre victoire sur le monde, c'est notre foi, mais également divine dans ses échecs, parce que notre Seigneur veut que le grain tombe en terre avant de pouvoir produire du fruit. Si nous voulions développer le caractère divin de la mission de l'Église, il faudrait lire ou vous résumer le livre « L'âme de tout apostolat » de Don Chautard, cistercien, qui montre très bien que c'est par son amour de Dieu, sa richesse intérieure dans l'amour de Dieu, qu'un apôtre est efficace. Ce ne sont pas les moyens matériels, les moyens extérieurs. Certes, l'Église les a utilisés, mais fort peu en réalité. À vrai dire, il n'y a que les saints qui sachent utiliser les moyens matériels, et eux n'en ont pas besoin. Et nous, parce que nous ne sommes pas saints, que nous manquons de vie intérieure, nous sommes tentés de développer les moyens matériels extérieurs alors que nous ne savons pas les utiliser. Regardez saint François Xavier qui a parcouru à pied de l'Asie. Regardez saint François de Sales qui, comme simple moyen matériel pour ramener le Chablais devenu protestant, le ramener à l'Église catholique, a recopié des textes à la main. Et même si le bienheureux Maximilien Kolb avait un journal qu'il tirait à plusieurs millions d'exemplaires, ce ne sont évidemment pas les millions d'exemplaires qui font que le journal est lu, c'est la qualité de ce qui est écrit dans le journal, et cela, c'était écrit par un saint, Maximilien Kolb. C'est important de le noter parce que, aujourd'hui encore plus, où le bon Dieu veut nous punir d'avoir mis trop confiance en l'homme au lieu d'avoir confiance en lui, Dieu, et en sa providence, il nous prive des moyens matériels, il semble entraver notre apostolat, il semble même entraver l'apostolat de l'Église, disons qu'il permet que l'apostolat de l'Église soit entravé. Pourtant, il doit se continuer puisque l'Église est missionnaire et il ne peut se continuer que par une foi très vive liée à une charité très ardente qui déborde, charité pour Dieu, qui déborde sur le prochain dans une délicatesse dans les œuvres de miséricorde. L'objet premier de la mission, faire la chrétienté à partir de la société civile. Oui, je sais, on dit d'habitude que l'objet premier de la mission de l'Église, c'est le salut des âmes. Mais je vous ai suffisamment dit que le salut des âmes est une œuvre commune, qu'on s'est beaucoup trop habitué à distinguer le salut individuel des âmes d'une part, et puis la progression ou la vie de l'Église d'autre part. Et puisque l'Église est une amitié et qu'elle réunit tous les amis de Dieu, il n'est pas possible que les amis aiment Jésus-Christ tout seuls, sans le faire avec leurs autres amis. Je vous en ai parlé, par exemple, avec la communion à la messe, où les grains de blé sont broyés pour ne faire qu'une seule farine, ce qui est le symbole de la charité, c'est-à-dire de l'union de tous les chrétiens dans l'Église, à notre Seigneur Jésus-Christ. La société civile est le lieu normal, naturel, de vie de l'homme, donc du chrétien. C'est là que normalement il devait trouver son épanouissement, et à cause du péché originel, il n'y trouve plus son épanouissement. Il trouve un certain épanouissement, normalement, lorsqu'elle est bonne. Il doit y trouver un certain épanouissement, mais il n'y trouve plus l'épanouissement essentiel qui est l'amour de Dieu. Sauf si cette société civile est pénétrée, enrichie par la grâce de Dieu. Dans le plan primitif de Dieu, il devait y avoir une unité parfaite entre la société civile et l'Église. Adam devait être à la fois roi, prêtre et prophète, au nom de Jésus, au nom de Dieu, pas au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Désormais, cette unité doit être retrouvée pour constituer la chrétienté. Et le plus simple pour vous l'expliquer, et comme vous le faire toucher du doigt, mes bien chers frères, c'est d'étudier l'histoire pour connaître ce que Dieu a voulu pour la société humaine. De même que la vie des saints vous montre le Saint-Esprit en action dans l'âme des saints et des chrétiens, de même l'histoire de la chrétienté et l'histoire tout court vous montre l'action du Saint-Esprit à l'œuvre dans la société. Un des premiers actes du pape, il s'appelait le pape Gélase, après les persécutions, on avait un pouvoir fort à Rome, qui était le pouvoir de l'empereur, l'Église est désormais suffisamment établi pour pouvoir parler avec autorité à l'empereur et lui montrer quelle est sa fonction dans le plan de Dieu. Le pape Gélase écrit une lettre à l'empereur et il lui dit « C'est moi qui ai l'auctoritas, c'est-à-dire l'autorité, toi tu as la potestas, c'est-à-dire le pouvoir. » C'est-à-dire que tu as été établi par Dieu pour réaliser ce que moi, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, je te montre comme étant l'idéal d'une société chrétienne. Heureusement, l'empereur écouta le pape Gélase. Cela supposait de l'humilité de sa part, car les empereurs païens avaient prétendu incarner et l'auctoritas, l'autorité, et la potestas, le pouvoir. Donc, humblement, l'empereur reconnaît que l'auctoritas, l'autorité, est exercée dans son empire par le pape, et avec le pape par les évêques, et que lui, il a reçu le pouvoir pour réaliser ce bel idéal que le pape lui fait découvrir. Du coup, cette autorité qui vient de Dieu et qui passait par les évêques, parce qu'il n'y a évidemment pas que le pape à l'exercer, il n'est que de voir Saint Rémy, par exemple, avec Sainte Clotilde et Clovis, mais également tous les évêques de la Gaule gallo-romaine. Cette autorité va être comme une pluie bienfaisante qui pénètre dans toute la société, et par l'Église, elle va se transmettre au roi. Un des très beaux exemples, c'est Charlemagne, avant même qu'il soit couronné empereur, qui exerce une sagesse dans tout l'Empire. Mais cette sagesse, on l'a trouvée déjà chez les rois mérovingiens, sur lesquels on a dit beaucoup de mal qu'ils ne méritent absolument pas, car ils étaient amis des évêques, et rien que cela les a pénétrés de cette sagesse dont je vous parle, et qui, par la société civile, s'est transmise aux pères de famille et à tous les chrétiens pour exercer leur œuvre dans la société. Et c'est en ce sens-là que je vous dis que la christianisation de la société civile est l'œuvre première de l'Église, parce que par là, le Saint-Esprit pénètre jusqu'au fin fond des familles, et quand un père de famille, conscient de la mission qu'il a reçue principalement par le sacrement de mariage, lorsqu'il parle, il exerce une réelle autorité, uniquement sur sa famille, bien sûr, mais une réelle autorité. On retrouvera la même autorité chez tous ceux qui ont une responsabilité dans la société, que ce soit le maître sur les apprentis, que ce soit le maître à l'université, que ce soit les organisateurs de métiers, que sais-je. J'ai relu récemment le livre « Les institutions politiques » de mon maître en histoire du droit et de son propre maître, le Marinier, très bons chrétiens tous les deux, qui nous décrivent la société, surtout en Gaule, après les persécutions, disons après la conversion de Clovis, jusqu'en l'an 1000 à peu près, et c'est extraordinaire de voir l'amitié qui règne entre les rois ou les comtes, disons tous les responsables politiques, et les évêques, et les prêtres du coup. Cette amitié est telle que les chefs politiques, rois ou comtes, n'hésitent pas à confier des responsabilités politiques aux évêques, et de même, les évêques n'hésitent pas à confier des responsabilités religieuses aux rois et à tous les chefs politiques. Dans la ligne de ce que Gélase, le pape Gélase avait dit à l'empereur, il ne lui avait pas dit « J'ai l'autorité, le pouvoir, désormais tu m'obéis le petit doigt sur la couture du pantalon ». Il dit à l'empereur « J'ai l'autorité, tu as le pouvoir, nous allons collaborer pour que ton pouvoir s'exerce dans la ligne de mon autorité qui vient de Dieu ». Il n'était pas rare, c'était même très fréquent, que les évêques confient au roi ou à l'empereur la responsabilité de faire appliquer les décisions qu'ils avaient prises en concile. Un autre exemple encore. On m'a posé la question récemment, quelle était l'organisation politique de la commune sous l'Ancien Régime ? Eh bien, sous l'Ancien Régime, la commune s'identifiait à la paroisse, et on peut dire que l'organisation politique de la commune s'identifiait à l'organisation religieuse de la paroisse. Bien, je vais m'arrêter. J'étais très gourmand, je voulais vous parler également de l'objet second de la mission, ramener les pécheurs au pied de la croix, à la foi, à la charité du Christ, c'est-à-dire les ramener à l'Église. Et puis je voulais en tirer des conséquences, mais ça sera pour une prochaine fois, le prochain sermon. Je vous conseille en attendant de lire « L'âme de tout apostolat » de Don Chotard. J'ai mis un lien dans le résumé du sermon. Et puis « L'histoire secrète de la congrégation de Lyon » qui décrit l'apostolat des laïcs en collaboration avec les prêtres à Lyon sous la terreur de la Révolution française et dans le 19e qui a fait du diocèse de Lyon un diocèse à la fois renouvelé, dont la foi a été bien plus vive, la charité bien plus vive qu'avant la Révolution française. Sainte Clotilde, priez pour nous. Bienheureux Charlemagne, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.